Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Anna Moussinet. Bonjour Anna Moussinet.
Bonjour Anne-Charlotte.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte DPLG et à la tête de Anna Moussinet Interior Design, votre propre agence créée en 2001. Le moins que l'on puisse dire est que de votre côté, cela foisonne. Paris, Doha, Prague, Odessa, Rome, Rabat, la Suisse, beaucoup d'hôtels, mais aussi un cinéma, celui des 7 Batignolles, un chocolat flagship store, un centre culturel alternatif, un appartement privé, etc. Un impressionnant panel de clients, Accor, Altarea, Cogedim, BNP, Pathé Gaumont, Club Med, Ligne Roset, Viparis, pour ne citer que. Polyglotte aussi, femme d'architecte et maman de 2 enfants, quelle énergie, vous allez nous raconter tout cela. Mais commençons par le début, vous êtes née en Serbie, je crois.
Oui, tout à fait, à Belgrade.
Ouais. J'ai cru comprendre que vous avez grandi dans un milieu artistique. Pouvez-vous nous raconter votre parcours, votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études?
Bonjour Anne-Charlotte, merci pour votre accueil.
Je vous en prie.
Écoutez, oui, je suis née à Belgrade, j'ai grandi en Serbie dans une famille d'artistes, peintres, architectes et ingénieurs, donc dans un milieu artistique. Et dès mon plus jeune âge, j'ai baigné dans cette culture-là. Et mon terrain de jeu était en fait, avant tout, le jardin de l'école des Beaux-Arts de mes parents, où ils m'emmenaient régulièrement pour partager leur passion. Donc c'était une vocation commune de la famille, c'est d'imaginer, de créer, de s'inspirer et d'être toujours en contact de la création.
Vous avez des souvenirs marquants de ça ?
Oui, plein. Plusieurs années de vie de partage à Belgrade et dans les voyages. Et puis très vite, j'ai embarqué vers les États-Unis à l'âge de 16 ans pour faire d'autres rencontres et surtout pour continuer les études. Donc des États-Unis, je suis arrivée à Paris pour rentrer en école d'architecture aux Beaux-Arts de Paris, où j'ai fait mes 6 ans. 6 ans d'architecture, 6 ans de bizutage, 6 ans de rêve. Parce que faire des études d'architecture à Paris, c'est clairement un rêve. Donc 5 années qui m'ont forgé pour attaquer sereinement ma vie professionnelle, ma vie parisienne, et où je me sens très intégrée. La formation, ce qui pourrait être intéressant de dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'agence et moi-même travaillent essentiellement dans l'architecture d'intérieur. Mais la formation d'architecte DPLG m'a permis d'appréhender chaque nouveau projet selon les contraintes de la taille, avoir un œil différent et certainement être plus à l'aise dans des grands espaces. C'est pour cette raison que les projets ne se résument jamais à une ambiance ou un matériau choisi, mais toujours à un rapport au volume, à son usage pour créer un projet singulier. Et je le perçois tous les jours à travers des différents projets à différentes échelles que mon œil, mon approche reste toujours une approche globale. Et c'est les études d'architecture qui m'ont permis d'avoir ce regard et ce travail qui s'est construit petit à petit à travers un nouveau métier qui est l'architecture d'intérieur, mais qui est proche et à la fois loin de l'architecture.
Mmh. Alors, vous avez commencé votre activité d'architecte en créant votre agence, non? Vous êtes passé par d'autres agences avant?
En fait, c'est quasiment en sortant de l'école, parce que très rapidement, j'ai senti que j'avais besoin d'une liberté. Cette liberté passait par des collaborations. J'avais collaboré avec Didier Gomez, qui est un designer, et puis pour la partie de développement des projets de hôtelier dans le Sofitel à Rabat. Et puis aussi avec Mathieu Lehaneur, un designer avec qui j'ai beaucoup apprécié collaborer et travailler pour certains projets qu'il avait, et dont la maison Caillet, donc le flagship store du chocolat, dont Viparis, enfin électrique, à Porte de Versailles, le centre multiculturel.
Et du coup, très vite,
donc,
vous...
J'ai très rapidement, j'ai très rapidement eu les commandes en direct me permettant de prendre mon envol et travailler dans le domaine d'hôtellerie de luxe. Et ce domaine me passionne parce que c'est toute la réflexion de comment faire plaisir aux autres. Et ça passe par un travail très global. Et en même temps... Comme je disais tout à l'heure, à différentes échelles, c'est aussi ma formation d'architecte me permettait plus facilement d'appréhender ce premier hôtel qui, finalement, 30 000 m², 260 chambres, un lobby de 3 000 m². Donc, il fallait très rapidement et facilement appréhender les espaces, se projeter, créer et ne jamais avoir peur de rentrer dans cette restructuration qui était à une échelle plus importante que on pourrait imaginer de faire dans l'architecture d'intérieur au quotidien. Mais moi, ça m'amusait. Bien au contraire, j'adore les volumes et j'adore travailler ces notions de plein, de vide, de restructuration, cette notion de transformer un lieu et le rendre unique pour le besoin qu'on a. Donc l'hôtellerie, très rapidement l'hôtellerie, donc très rapidement référencée auprès du groupe Accor, groupe Marriott.
Mais dites-moi, c'est avoir de telles commandes pour démarrer, c'est peu courant?
Bah, écoutez, je crois profondément que ça marche très fort de... Je dirais pas de bouche à oreille, mais plutôt d'une première expérience, deuxième ou troisième, où vous faites vos preuves, les gens ils viennent vous chercher. J'ai jamais eu, enfin, je sais pas prétentieux, mais j'ai jamais vraiment eu à démarcher. Les projets sont plus venus vers moi. J'ai aussi fait un choix d'avoir une plus petite agence. Donc on est une dizaine. Composé d'architectes, designers, architectes d'intérieur. Ce qui m'a permis toujours de choisir un petit peu mes projets, travailler sur des projets dont je pensais qu'il y a une vraie valeur ajoutée et où il y a un échange un feeling qui se crée avec le maître d'ouvrage. Et c'est extrêmement important pour moi parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut aussi donner le meilleur de soi et créer pour ces différentes sociétés.
Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école?
Ah oui, oui, et bien au-delà. J'ai adoré mes études d'architecture qui m'ont permis cette ouverture exceptionnelle, un travail en rapport avec les volumes, la matière, les pleins, les vides. J'ai adoré ça. Mais ma sensibilité m'a emmenée très rapidement vers la création et la restructuration des espaces intérieurs et à différentes échelles. Et c'est ça qui était séduisant. Avec des clients exceptionnels que j'ai eu la chance d'avoir et qui m'ont témoigné d'une grande confiance. Qu'espérer de plus.
Alors, on a parlé de vous. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets? Vous revendiquez les valeurs spatiales, le volume est pour vous une matière à sculpter. Vous jouez la complémentarité entre l'élégance française et la joie de vivre slave. Comment ce qui constitue votre ADN d'architecte d'intérieur s'exprime à travers ces projets?
La formation d'architecte donc m'avait permis d'avoir une vision globale sur l'environnement dans lequel le projet d'architecture d'intérieur va se déployer. mes affinités personnelles, c'est à travers mon quotidien, mes voyages, qui ont nourri mon regard sur ce qui m'entoure et ce qui conditionne vraiment ma démarche créative. Donc, je peux dire que c'est un tout. Ça va d'un volume à un détail, passant par la lumière. J'appréhende chaque projet d'une façon différente. Et donc, je dessine beaucoup, je me pose beaucoup de questions sur les formes et sur les volumes. Et je continue de plus en plus à m'approcher de l'univers du mobilier et de l'édition parce que ça m'intéresse. Donc, je pense que l'architecture d'intérieur, cette vision qui peut être très globale et qui passe par un volume à travers une lumière et qui pourrait et qui doit, à mon sens, se finir par l'objet. Donc, changer sans cesse l'échelle du projet m'excite, me nourrit, m'intéresse, m'enthousiasme. Je dirais que l'ADN, il n'est pas dans un style particulier, une forme, une mode. J'essaye de passer outre les tendances, même si, bien sûr, dans l'architecture d'intérieur, il y a forcément des tendances, il y a un style qui passe, voilà, et que tous les 5 ans, on sait qu'il y a des choses qui vont devenir obsolètes. Et ben, je me bats un petit peu contre ça, en essayant de penser plus à un côté intemporel, chic, élégant, avec une profondeur adaptée à un espace donné. Parce que ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que chaque projet en repart à zéro, mais bien sûr, c'est de s'inscrire dans un univers qui commence par un univers d'un bâtiment, de son environnement. Est-ce que c'est un bâtiment qui est en construction? Est-ce que c'est une réhabilitation? Est-ce qu'il y a une âme? Quelle est l'histoire de lieu? Et très souvent, avant de commencer un projet, je pars, comme on a pas mal de projets à l'étranger, je pars toute seule, 2-3 jours pour retrouver la ville, me retrouver moi-même dans un univers nouveau, faire des rencontres, rencontrer des artisans d'art, faire des musées, m'inspirer. J'ai besoin de ça avant de commencer la création. J'ai besoin de ce rendez-vous avec le lieu.
De ce temps d'imprégnation.
Oui, tout à fait. Temps d'imprégnation et aussi le temps d'une réflexion qui est... pas forcément avec l'équipe, mais qui est avec moi-même avant de pouvoir donner les directions sur
un projet. Vous allez puiser votre inspiration.
Oui, c'est ça.
En vous immergeant.
Tout à fait. Donc, je vous parlais de l'architecture intérieure, de l'édition, donc du mobilier. C'est ces dernières nouvelles sur l'édition pour Ligne Roset, pour la manufacture. Mais surtout... j'avais aussi ma recherche perpétuelle de renouveau et passe aussi par, qui m'excite énormément, c'est le détourner des matériaux dans leur sens initial pour enrichir, pour générer une expression différente, peut-être singulière si on peut dire. Donc j'ai créé un projet que j'ai présenté au Salon Maison et Objets en janvier 2020, juste avant cette crise. Cet objet, ça s'appelle Echo Bayana Moussiné, c'est un exemple parfait de ma volonté de créer. Donc, j'ai créé un procédé unique qui consiste à vaporiser une substance chimique d'une façon dégradée sur différents supports sculpturaux ou tout type de support. J'ai réalisé cette sculpture comme un voile à la Richard Serra qui est 8 mètres de long par 2,50 mètres de haut, où j'ai exprimé cette création pour donner envie, qui donne envie d'explorer un nouveau univers qui est celui de l'infini, donc qui est celui du miroir. Donc c'est un voile de chrome en dégradé qui se pose sur un support. Donc c'était un bel exemple d'aller au-delà d'un volume, d'aller au-delà d'une matière qu'on pourrait juste trouver jolie parce qu'on a trouvé un revêtement qui est présenté par un artisan, mais essayer de créer soi-même quelque chose qui finalement pourrait ou va devenir un support d'expression des autres. Parce que la finition du chrome, qui est un miroir, donc de l'infini, se posant sur une surface en dégradé, fait apparaître une autre matière qui est derrière. Donc, en réalité, ça peut être un support à toute matière ou toute expression d'une marque qui pourrait être intéressée pour la voir, que ce soit dans le retail, ça peut être une coque de bateau, on aurait le sentiment qu'elle vole sur un océan. Cette notion du miroir et de l'infini m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, ça se ressent dans mes projets. Le miroir est assez présent.
Bon. Alors, peut-être que vous pouvez nous parler d'un projet emblématique d'hôtel.
Oui, j'avais envie de parler de deux univers qui actuellement sont très présents à l'agence, qui est donc l'univers d'hôtellerie, qui reste l'hôtellerie de luxe sur lequel on travaille depuis une quinzaine d'années, pour différentes marques, mais aussi cet univers des espaces de vie au sein des bureaux. Parce que je pense qu'il y a une forte actualité et une remise en cause aussi actuelle par rapport à ce qu'on vit, de savoir quelle est la place du bureau. Moi, j'y crois encore très fortement que cette place doit exister parce que je pense qu'une visio sur Zoom, Teams ou autre ne pourra jamais remplacer un fort échange humain à quelques mains et quelques crayons sur une table dans un partage ensemble. Donc, ces moments de travail comme ces moments de détente et de vie, ce que j'ai pu créer et proposer à travers plusieurs projets que je fais actuellement pour une grande foncière française qui est la Société Foncière Lyonnaise et qui m'a confié plusieurs projets assez exceptionnels au cœur de Paris sur lesquels on travaille. Donc j'avais envie de citer ces quelques projets, dont un que je viens de livrer il y a une dizaine de jours, qui est l'ancien bâtiment de Louvre des Antiquaires. Donc, au cœur de Paris, sur son grand paquebot assez monumental, extrêmement bien placé entre le Louvre, les jardins oratoires et le ministère de la Culture. Ce bâtiment, à l'intérieur, est un bâtiment très organisé, parce que c'est un bâtiment de bureau, très pragmatique, tout est bien pensé, calculé, et ça me manquait de l'âme. Donc la Société Foncière Lyonnaise m'a confié ce projet pour retrouver un lieu de vie pour toutes ces différentes sociétés et collaborateurs qui vivent, qui travaillent et qui passent beaucoup de temps dans leur bureau. Donc c'est un lieu de vie que j'ai créé. J'ai ramené également la notion de l'art, travaillant avec Amélie Duchalard, qui est la maison d'Amélie, quelqu'un d'exceptionnel qui m'a accompagnée sur le choix des œuvres d'art que nous avons pu ramener dans ce lieu de vie autour d'un café, lounge, salle de réunion, un peu exceptionnel, et où les collaborateurs peuvent se retrouver pour partager, pour échanger, pour se connecter, pour se détendre, se ressourcer et en même temps travailler. Donc Louvre des Antiquaires fait partie d'un des projets. Les prochains qu'on livrera à Paris, donc un au mois de mai qui est dans le Square Édouard VII, qui est également un café, lounge, un espace de travail avec un lieu de fitness pour les collaborateurs. Et puis, en mois de septembre, un grand projet qui est pied de l'Arc de Triomphe, qui s'appelle 83 Marceau, dont Dominique Perrault fait de l'architecture, la rénovation du bâtiment. Moi, je m'occupe des lieux de vie, avec un auditorium, un café lounge, etc., de ce bâtiment qui fait 8 500 m² et qui ouvrira donc cette année, dans lesquels il y aura également les bureaux de Goldman Sachs. Donc beaucoup de projets à Paris cette année qui ouvriront et qui sont liés à cette nouvelle façon d'appréhender ces lieux. On appelle ça les espaces de service, qui sont pour moi les espaces de vie dans lesquels on y vit au bureau. Donc ça, c'est une activité qui nous a pas mal occupé ces dernières années, qui nous occupe toujours et dont on est très heureux de participer. Puis également de l'hôtellerie, donc les projets hôteliers dans lesquels on y tient encore beaucoup, qui sont donc actuellement le Ritz, les résidences Ritz à Dubaï, sur lesquelles nous sommes en train de travailler. C'est aussi une autre façon de travailler l'hôtellerie, parce que c'est des lieux, c'est des appartements, mais c'est des appartements qui sont plutôt des appartements hôtels, avec des cinémas privés intégrés, avec des espaces de vie, avec bien sûr des espaces de spa, wellness, et aussi des lounges, des bibliothèques. Bon, ce n'est pas de l'hôtellerie, les résidences, c'est intéressant d'en parler, parce que je pense que beaucoup de maîtres d'ouvrage aussi se posent aujourd'hui la question entre l'hôtellerie et les résidences, les différentes résidences. C'est un créneau, pour nous c'est la première, parce qu'on est plutôt spécialisé dans l'hôtellerie.
En fait, l'hôtellerie maintenant est en train de s'orienter vers plus des lieux d'expérience.
Exactement. Ouais. On travaille beaucoup, alors c'est dans tous les briefs, l'effet waouh, l'expérience. Bien sûr, l'expérience, on la travaille. L'expérience aujourd'hui arrive par différentes façons de vivre un lieu, de le consommer différemment en espace journée, en espace nuit. D'avoir une hôtellerie qui s'adapte à nos besoins et nos envies à tout moment de la journée, que ce soit, c'est un peu la même chose avec la lumière dont je parlais, qu'on essaye de travailler pour qu'elle s'adapte à nos envies.
D'accord. Dans ces projets, alors, la durabilité des projets, enfin, l'exigence aujourd'hui écologique, hein, on peut, elle s'étend à tous les projets. Comment vous y répondez ?
C'est une question qui est récurrente, on l'a depuis plusieurs années, elle est sur tous les projets. On a appris à travailler avec les matériaux qui, bien sûr, correspondent aux normes écologiques. On apprend tous, on se cultive tous pour respecter l'environnement de plus en plus dans notre quotidien. Donc la façon dont on va l'appréhender et l'utiliser dans des espaces hôteliers ou dans des espaces de vie dont je parlais, c'est forcément, ça passe forcément par un travail qui est de notre côté lié aux matériaux, lié à la durabilité de ces matériaux qui doivent être forcément appropriés à leur usage. Travailler beaucoup le bois d'une façon différente, on explore, on exploite. En fait, je pense que ça ne passe pas forcément par une piste, c'est beaucoup de pistes et beaucoup de compétences qui sont associées. Les acteurs, donc moi je suis architecte d'intérieur, mais sur un projet, on a tous les acteurs qui font que ça soit en termes d'éclairage, en termes de la CVC, en termes de, voilà, de sa rapport architectural. C'est un ensemble qui crée un produit durable. On a une part, cette part-là, elle est en même temps très normée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut, mais on ne peut pas non plus aller au-delà de ce qui est possible par rapport aux inventions qui ont déjà été faites. Donc on est assez cadré sur ce point. Donc on suit les besoins, on suit les tendances et on répond à ces besoins.
D'accord.
Au quotidien.
Est-ce que vous voulez revenir sur la composition de votre équipe ?
Oui, donc nos studios sont à Paris, dans le Marais. Nous sommes une équipe d'une dizaine de collaborateurs, architectes d'intérieur, designers. Et mon envie était toujours de pouvoir travailler sur des projets et des objets à des échelles différentes. Donc il fallait répondre et l'équipe, elle répond parfaitement à ce besoin. Allons des jeunes de 20 à des seniors qui ont beaucoup d'expérience et qui nous accompagnent sur le projet. Donc j'ai une très belle équipe dont je suis très fière.
Quelles sont vos influences ?
Au-delà des noms que je pourrais citer, qui est Peter Zumthor, Soulages, ou encore Kundera. C'est davantage ma sensibilité à la forme, au volume, à la lumière qui me conditionne et qui m'inspire vraiment. Je n'ai pas d'a priori, j'élimine aucun site ou bâtiment. Ça serait avant tout l'émotion ressentie qui est primordiale et qui me transporte et qui, vers un univers nouveau, vers les inspirations.
Et dans le patrimoine, vous avez des lieux de prédilection sans que ça soit forcément des influences mais...
Oui, dans le patrimoine, si on peut parler de Paris, ça serait des jardins. Ça serait des jardins. Donc, je ne parlerai pas de l'architecture, mais je parlerai plutôt de ces espaces, ces tampons, de quels on en a tous besoin. Et pour moi, ça fait partie de ce patrimoine qui est unique et qui, à chaque fois, nous renvoie à un passé, mais nous donne un nouveau souffle. Et ce souffle végétal, on en a besoin. On en a fort besoin.
Des Tuileries au Butte-Chaumont, en passant par le jardin du Luxembourg.
Ouais, exactement. Ou en passant par la place des Vosges qui est à côté des bureaux, ou le Palais Royal, tous ces endroits magnifiques qu'on peut contempler et on peut se poser et passer quelques heures à bouquiner.
Bon. Alors, la lumière joue un rôle très important dans votre production.
Oui, je dirais même essentiel. La lumière, c'est elle qui structure l'espace, c'est elle qui le sublime, c'est elle qui sublime nos univers, c'est elle qui rythme nos journées. La lumière, le studio a toujours été accompagné d'une équipe de lighting designer, et notamment une équipe assez exceptionnelle que j'apprécie énormément, c'est Voyons Voir, dans la tête, et Stéphane Caratero, avec qui j'ai beaucoup d'affinité sur le travail qu'ils font et qui va parfaitement, se combine et valorise parfaitement le nôtre, parce qu'il nous aide à scénariser et magnifier nos intérieurs. Et la perception d'un espace ne vivra jamais aussi bien que si elle est mise en lumière de la manière la plus juste et la plus exceptionnelle. Et ça, ça fait partie de la démarche complète d'appréhension d'un espace quand on commence à le créer. Oui.
D'ailleurs, nous avons reçu très récemment Hervé Audibert, donc un designer lumière.
Oui, tout à fait.
Parce qu'en effet, on pense que ces professions qui sont très connexes jouent un rôle fort important aussi.
Oui, bien sûr, parce qu'ils permettent de mettre en scène, mettre en lumière notre projet. Et en hôtellerie, dans tous les projets, mais en hôtellerie, c'est très fort et extrêmement important parce qu'on n'a pas besoin de la même lumière à 10h du matin comme à 3h du matin quand on se lève et on va aller vers notre salle de bain. Et cette notion d'être accompagné au plus juste par une lumière artificielle et la combiner avec la lumière naturelle, il y a un vrai savoir-faire derrière. Et pour nous, il est essentiel d'être accompagné sur nos projets pour justement valoriser davantage et leur donner une autre dimension.
Et vous avez des matériaux ou des couleurs de prédilection ? Ou est-ce que vous revisitez à chaque fois les ambiances et les matières ?
Ça serait malhonnête de dire que j'en ai pas. Même si je ne pense pas qu'une couleur qu'on doit être fort attaché à... Voilà, je pense que le noir et blanc reste quand même... toujours présent. Après, se greffent quelques couleurs qui sont très souvent des non-couleurs parce que c'est des verts très foncés, c'est des verts gris sourds très foncés, mais c'est aussi des bleus clins. C'est des bleus clins qu'on a pu voir avec Echo, qui n'était pas un hasard parce que j'ai créé un lieu qui était en miroir, mais le miroir reflétait tout l'environnement qui était un très beau bleu clin. Dans lequel on était. Donc voilà, Je ne suis pas très fantaisiste dans les couleurs, mais j'aime beaucoup le contraste.
Oui. J'ai en effet remarqué, en découvrant votre travail, que vous aviez une certaine sobriété,
oui.
Une élégance et une sobriété. Parfois, vous êtes presque un peu... Vous allez vers des aménagements un peu masculins, quasiment. Mmh. On vous l'a déjà dit.
On m'a dit les deux. On m'a dit que c'est extrêmement féminin parce que il y a la notion de la courbe qu'on peut retrouver plus dans l'aménagement pour un côté un peu plus fluide et masculin sur ce côté un peu plus architecturé. Des espaces qu'on retrouve qui sont dans ce contraste, que ce soit le noir, le blanc et tous ces dégradés de ces tonalités. C'est certainement un juste mélange des deux, mais je pense qu'au fond, l'écriture se réinvente à chaque fois parce qu'elle dépend du projet. Et je m'inscris dans un cadre, et ce cadre est donné par la bâtisse, par... le vécu de lieux que je vais retrouver, de l'histoire et de son environnement, de son contexte. Je ne vais pas créer de la même manière dans un bâtiment au cœur de Paris qu'à Dubaï, qui est une ville nouvelle, qu'à Prague ou qu'à Odessa. Je pense que c'est ça aussi de notre métier, il est de chercher des univers et de comprendre... au mieux pour pouvoir s'adapter à un lieu.
Alors, comment imaginez-vous le monde d'après ? On en parle beaucoup depuis un an. J'ai des réponses très variées au fil des podcasts, mais comment, de quelle manière vous vous projetez dans l'avenir ?
Alors, moi j'imagine le monde de demain avec beaucoup de légèreté. Tout l'inverse de ce qu'on peut ressortir peut-être aujourd'hui dans ce moment de crise. Mais je trouve que le monde de demain, il est dématérialisé, il est hyper mobile, il est multi-opérationnel, il est accessible à tous. Et j'y crois profondément. Et je pense que cette crise qu'on vit va nous permettre, bien au contraire, d'être encore plus forts. Et pouvoir sentir cette légèreté un peu plus tard, si ce n'est pas aujourd'hui.
Oui. Bon, quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? Vous qui sortez d'une école d'architecture.
Oui, et que j'ai mon fils qui vient de commencer sa première année en école d'architecture. Écoutez, le conseil que je pourrais donner, c'est travailler son imagination. Explorer, se cultiver et surtout... ne jamais oublier de créer. Parce qu'on aura le temps d'appréhender les contraintes plus tard, se permettre de s'offrir ces six belles années de liberté, de création, et se cultiver au maximum, parce que c'est ça qui manquera à la jeunesse certainement le plus.
Je suis assez d'accord. Remettre toutes les choses... à leur place.
Oui, ouais. C'est ça. Ouais. Exactement.
Avez-vous un mot de la fin ? Souhaiteriez-vous conclure avec, je ne sais pas, un sujet qui vous tient particulièrement à cœur ? On a abordé un peu tous les sujets, mais quels seraient vos rêves les plus fous pour l'avenir de votre agence ?
Les rêves les plus fou pour l'avenir de l'agence, c'est garder la liberté que j'ai su préserver jusqu'à maintenant, c'est-à-dire d'avoir le choix, d'avoir toujours le choix d'accompagner, de prendre ou pas prendre un projet à partir du moment où je pense qu'il a du sens, c'est-à-dire la notion du sens pour moi est primordial. Et le souhait serait peut-être, si je dois imaginer l'agence dans une autre forme, c'est penser à un espace qui pourrait, un nouvel espace qui pourrait en même temps avoir plusieurs usages, c'est-à-dire avoir un lieu dans lequel on peut travailler, mais dans lequel on peut exposer, dans lequel on peut inviter et dans lequel on pourrait recevoir peut-être à travers un petit hôtel particulier qui réunira tout ça à la fois. Ça serait beau.
Bon. Merci beaucoup Anna Moussinet d'être
Merci
venue
à vous. Minali. Merci Anne-Charlotte, c'était un plaisir.
À très bientôt sur l'un de vos projets en anglais. Merci à tous. À bientôt sur Comme d'Archi. Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse comdarchi podcast, comdarchi podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.